D'abord, on va passer un temps de louange, d'adoration, de prière. Est-ce qu'on peut encourager tous les louangistes? Ils sont là depuis 2 heures. Depuis 2 heures, ils répètent, ils sont là, ils prient. Et que ce matin, on soit une chorale, les uns et les autres, pour donner toute la gloire à Dieu. Amen. Bonne célébration à chacune et à chacun.
Bienvenue à tous, bienvenue à l'EPI, bienvenue à ceux qui sont en ligne. On est heureux ce matin de pouvoir louer et adorer Dieu tous ensemble, pouvoir élever son nom. Je crois que, je ne sais pas vous, mais moi ce matin j'ai encore envie que Dieu me parle. J'ai envie de lui dire: Seigneur, touche mon cœur tout à nouveau. Seigneur, révèle-toi encore et encore. Et on va prendre ce chant qui dit: oui, nous t'attendons, vois nos mains élevées vers toi. Mais Seigneur, ce matin on a soif de toi.
Que les montagnes se lèvent, le cœur.
Ce temps de proclamation ce matin, Église, on est en train de chanter la sainteté de Dieu. Alors que nous sommes dans ce temps de proclamation, pouvons peut-être à l'intérieur de nos cœurs ou avec nos voix signifier à Jésus combien nous aimons sa présence. Peut-être qu'on pourrait dans ce lieu ce matin prendre un temps en prière, prière collective de l'Église, où chacun de nous, avec nos mots, avec nos cœurs, avec notre posture, avec notre attitude, puissions élever à Dieu tout ce qu'il y a dans nos cœurs ce matin. Que l'Église puisse être dans cette attente, dans cette expectation de dire: Jésus, voilà ce que ça veut dire pour moi, tu es saint. C'est-à-dire que dans des domaines de ma vie où j'ai besoin d'être transformé, je veux que tu me transformes, Seigneur. Je veux que tu continues ton œuvre. Alors on va se donner le temps maintenant de prendre à cœur d'élever nos voix pour celles et ceux qui le veulent. Commençons à prier dans ce lieu. Commençons à invoquer le nom saint de Jésus, la personne que Jésus est. Jésus est saint. Demandons à Jésus de continuer à transformer nos cœurs, nos pensées, à réformer ces voies qui nous éloignent les uns des autres, qui nous éloignent de Dieu. N'ayons pas peur de le signifier si notre âme nous y conduit. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que là, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de transformation. Jésus, touche mon âme, touche mon cœur. Seigneur, réforme mes voies. Seigneur Jésus, que nous soyons connus dans cette ville, dans ce lieu, pour être des hommes et des femmes qui ont soif de la sainteté de Dieu, soif de la transformation de Dieu. Seigneur, nous élevons nos voix ensemble ce matin. Et vous qui êtes en ligne avec nous, si vous le pouvez, élevez votre voix dans la présence de Dieu. Célébrez, le peuple de Dieu loue, tu es saint. Je veux pas simplement le dire, je veux que tu agisses dans ma vie, Seigneur Jésus. Que des prières secrètes des cœurs puissent aussi monter, c'est le bon moment. Dieu est bon, Dieu relève, Dieu pardonne. Jésus est mort à la croix pour que nous puissions être pardonnés ce matin, pour que nous puissions être relevés ce matin. On passe pas à côté de cette grâce. De grâce en grâce, Dieu fait son œuvre dans ta vie. Il n'est pas là pour que tu restes écrasé, il est là pour que tu puisses être relevé. Relevé dans ta santé, relevé dans tes émotions, relevé dans tes relations, relevé dans ta vie intérieure, ta vie psychique aussi. Seigneur Jésus, agis ce matin. Que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs, agisse dans mon cœur ce matin. Voilà où j'ai besoin encore d'être rassuré en toi. Là, voilà où j'ai besoin encore d'être confronté, d'être challengé par toi. Je veux ouvrir mon cœur, Seigneur Jésus. Je veux ouvrir mon cœur, Seigneur. Je te demande vraiment d'agir dans ma vie, d'agir dans l'Église aussi. Continue de sanctifier ton Église, de consacrer ton Église. Nous ne voulons pas être une Église simplement qui chante, mais une Église qui est transformée, Seigneur Jésus. C'est la prière de nos cœurs, transformée à ton image, à toi. Tu es le Dieu patient, le Dieu bienveillant, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de douceur, le Dieu de vérité aussi, le Dieu de fondation, le Dieu qui sait résister aux orgueilleux mais qui fait grâce aux humbles, Seigneur. Nous voulons être à ton image, Seigneur. Transforme les pieds à ton image encore et encore. Transforme nos familles à ton image encore et encore. Transforme-nous au travail à ton image encore et encore. Transforme-nous dans l'éducation encore et encore à ton image. Oui, tu es saint. Nous voulons le crier, nous voulons le prier, nous voulons le chanter. Jésus, nous avons faim et soif de toi. Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle étape, un nouveau pas, mais on veut le vivre ensemble. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur. Fais ton œuvre. Cet hymne à la gloire de Dieu, on va écouter une parole d'édification, d'encouragement. On va faire grâce, c'est une première fois. On va être dans le discernement, on va écouter. Et puis, il me semble que ce refrain-là va faire toute la différence aussi après avoir entendu ce qu'on va entendre. Et voilà, on va juste se mettre en discernement, en écoute et en bienveillance aussi.
Je t'appelle un peuple saint, je t'appelle un peuple saint. Mais tu ressasses le passé et tu te culpabilises. Ne t'ai-je pas dit que ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais par mon esprit? Alors laisse-moi faire ce que je veux faire, laisse-moi te former et toi focalise-toi sur mon esprit. Amen.
Amen. Amen. Tu es mon bouclier alors, Seigneur. On va répondre à ça. Tu es mon bouclier. Let's go. Seigneur, merci. Merci parce que ces paroles font écho dans nos cœurs. Tu es le rocher de notre vie. On veut l'apprendre encore et encore. Et aujourd'hui, c'est un bon jour pour continuer à apprendre que Jésus est le rocher de notre vie. Avant de prendre place, est-ce que vous pouvez souhaiter la bienvenue, si vous ne l'avez pas fait, à la personne à votre droite et à votre gauche? Juste lui dire bonjour et bienvenue, si vous ne l'avez pas encore fait. Juste question qu'on soit une église qui accueille. Voilà, vous pouvez prendre place. Une nouvelle fois, nous souhaitons une bienvenue à vous. Bienvenue à vous à l'église de l'Épi, une église protestante évangélique sur Strasbourg et son euro-métropole. Très heureux de vous accueillir dans ce lieu ce matin. Si vous êtes de passage, en congé, en vacances, on espère que cette célébration sera l'occasion pour vous de recharger vos batteries spirituelles. Franchement, bienvenue à vous. Prenez le temps de profiter de chaque instant. Et pour vous, Église aussi, ben, on vous souhaite une bienvenue de la part de toute l'équipe pastorale. Et on prie aussi que cette célébration soit un temps de ressourcement pour vous. Quelques petites annonces sur la vie de notre Église locale aussi. Vous savez, la semaine dernière, nous avons accueilli au milieu de nous 12 personnes jeunes baptisées. On a prié pour eux, on leur a offert une Bible et on croit que cette Bible, c'est une nourriture pour leur âme. Et on les a encouragés à faire quelque chose. On les a encouragés à pouvoir aussi aller vers l'église, vivre l'église dans les petits groupes. Et on vous a encouragé, vous aussi, à prendre soin des nouveaux baptisés pour connaître leur parcours de vie, leur témoignage. Donc n'hésitez pas, par le biais des petits groupes, par le biais de tout ce qu'on peut vivre en église, de permettre à ce qu'ils soient encouragés, bien accueillis au milieu de nous. Ils ont fait 3 mois de parcours, de formation biblique, de parcours de disciples. Et il ne faut pas qu'ils s'en arrêtent à là. Il faut qu'ils continuent à bénir, encourager et être encouragés par leurs frères et leurs sœurs dans la foi. Et pour ça, il existe un certain nombre d'espaces ici à l'EPI, dans les groupes de vie, dans des formations, les célébrations, des projets aussi, des événements spéciaux qui sont là. Et on travaille aussi avec différents partenaires sur la ville de Strasbourg. Et la première annonce, elle concerne une conférence qui est organisée par La Traversée. La Traversée, c'est une association de relations d'aide sur Strasbourg. Elle est partenaire de l'EPI et elle organise chaque année une conférence ouverte à tous. Et cette conférence aura lieu le vendredi 15 mars à 20h30 au CEDD, Centre Européen d'Études de Diabète. Le thème qui sera abordé, ouvert à tous, c'est l'équilibre. Quel équilibre dans notre vie de chrétien au milieu de toutes les turbulences de notre vie? Vous pourrez y assister en présentiel ou le suivre en ligne. Pour cela, vous avez des prospectus, des flyers au point accueil. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par cette thématique, avec cette approche en relation d'aide sur l'équilibre de vie, de pouvoir vous munir d'un prospectus. Toutes les informations sont sur le prospectus au point accueil. Et on a aussi la grande joie de pouvoir avoir Yolande Schwab de notre église locale qui sera une des oratrices dans une conférence qui sera à 3 voix avec 3 interventions. Donc voilà, toutes les infos au point accueil. On a notre jeûne et notre temps de prière aussi qui arrive dès la semaine prochaine, du lundi 19 au vendredi 23 février. Un temps pour recharger les batteries, un temps pour prier. On aura à chaque soirée, donc c'est en soirée, hein, de 19h30 à 21h, des axes de prière. On sera aussi encouragé par la prédication, mais vraiment des axes de prière sur différents sujets d'actualité. Venez aussi avec votre cœur pour être ressourcé, ou vos sujets de prière. On prendra le temps de prier, de s'encourager aussi mutuellement. Ça, c'est super important pour nous. Une information encore importante: mois de mars va rimer avec mois d'Assemblée Générale, donc je m'adresse principalement aux membres, à toutes les personnes qui ont fait ce choix de faire de l'EPI leur église locale aussi pour s'investir dans la vie, dans les projets, dans l'administration, dans la vie structurelle de l'église aussi. On aura une petite spécificité cette année, nous aurons 2 assemblées générales. Le dimanche 17 mars, nous démarrerons avec une assemblée générale ordinaire. On va parler de toute l'année 2023, se projeter sur l'exercice 2024, une assemblée générale comme on en a l'habitude. Puis nous aurons une assemblée générale extraordinaire où nous allons ensemble voter pour des statuts révisés avec la loi confortant les principes républicains, LCRPR. Il y a aussi quelques changement à faire dans nos statuts pour pouvoir continuer à être alignés avec le vivre ensemble ici en France. Et c'est une loi qui nous permettra, et j'aime beaucoup ce thème, c'est une loi qui nous permet aussi de pouvoir s'assurer que tout le pouvoir n'est pas aux mains d'une seule personne. Cette loi, elle a cet objectif-là. Alors on a beaucoup parlé sur le LCRPR, mais c'est aussi une loi qui permet à l'Église d'être Église et de pouvoir vivre Église ensemble. Donc on a révisé nos statuts, on ne l'a pas fait depuis quelques années maintenant. Donc pas d'inquiétude pour celles et ceux qui parfois cette approche avec l'administratif ou autre. On va essayer vraiment de faire les choses bien et qu'on puisse bien vivre ces moments-là. On va vous envoyer en amont sur votre boîte mail, à vous qui êtes membre de l'EPI, les statuts révisés afin que vous puissiez les lire, afin que vous puissiez vous y approprier. Et on va donc, à partir du 25 février, donc la semaine prochaine, on fait la convocation pour les assemblées générales. Vous aurez tout affiché, l'ordre du jour, les budgets, budget prévisionnel. Vous aurez toutes les infos pour vous préparer, un mois pour se préparer, pour s'approprier les choses. De temps en temps, une petite lecture de 2 minutes avant d'aller dormir, ou le matin dans le tram, une petite lecture de 2 minutes. Et juste de dire, ah, qu'est-ce que j'aime mon église de l'EPI. Elle veut faire les choses bien pour qu'on vive bien ensemble. C'est trop bien. Donc voilà, la convocation part à partir du 25 février. Et concernant les statuts notamment, parce qu'on sait que ça peut être un sujet des gens qui ne sont pas forcément au fait de tout ce qui est administration. On aura aussi un Zoom spécial pour les membres qui voudront se connecter, un Zoom spécialement sur les statuts. Vous pourrez poser toutes vos questions. Le conseil d'administration travaille là-dessus depuis plus de 3 mois et demi. On s'est assuré qu'au niveau des commissions juridiques, on soit dans les clous pour respecter notre culture d'église, parce que l'EPI a sa culture et nos statuts doivent servir cette culture et cette vision, tout en étant alignés aussi pour le bien vivre ensemble sur le territoire français. Donc on aura aussi un stand avec tous les membres du conseil d'administration, un stand de réponse. Vous avez des questions ? L'ECA apporte des réponses. Vous pourrez parler avec eux à partir de la semaine prochaine, un stand dans notre espace maintenant dédié là-bas pour la vie de l'Église. Vous pourrez rencontrer les membres du CA, vous pourrez vous munir des budgets, vous pourrez les regarder, les ausculter, les disséquer, millimétrer, tout ça, et vous préparer au mieux à vivre une belle AG. Pourquoi ? Parce qu'en se mettant ensemble, en s'unissant ensemble, ben on est plus fort. Et moi, je crois que c'est vraiment important d'être unis sur des décisions aussi importantes. Donc voilà, c'était une information clé, une information importante pour vous. Évidemment, on va revenir en annonce au fur et à mesure des dimanches. Mais on voulait juste vous annoncer, regardez bien votre boîte mail. Et surtout, si vous avez un spam, vous voyez Église de l'Épice, regardez dans vos spams si vous n'avez pas reçu, si vous êtes membre. Des fois, ça peut arriver dans un spam. Essayez de ne pas dire me désabonner, parce que s'il y a 500 personnes qui se désabonnent, on va être blacklisté par Google, d'accord ? Donc c'est bien nous, l'Église de l'Épi, qui vous envoyons un mail avec un lien, vous cliquez dessus, vous aurez en PDF les statuts de l'Église. Donc n'ayez pas peur si l'Épi vous envoie un mail. Et voilà, on compte sur vous, on compte sur vos prières aussi, on veut vivre vraiment un beau moment ensemble. On a de quoi se réjouir de ce qu'a été l'année 2023. Et on s'attend à ce que l'année 2024, avec Dieu, elle soit aussi belle. Amen ? Amen ? On va prendre un temps maintenant d'écoute aussi avec Michel, qui va venir nous interpeller sur que se passe-t-il quand on meurt. Et je pense qu'avec un tel message, il est important de pouvoir prier pour Michel. Prier pour chacune et chacun d'entre nous, parce que la bonne nouvelle de l'Évangile va être encore annoncée ce matin. Seigneur, merci. Merci pour la vie d'Église, merci pour les personnes avec qui nous sommes le royaume de Dieu. On te prie pour la traversée, on te prie pour cette conférence sur l'équilibre. Combien nous, disciples de Jésus, avons besoin de trouver l'équilibre en toi. On te remercie pour les temps de jeûne et de prière. Nous croyons à des percées spirituelles au travers du jeûne et de la prière, selon ta volonté, pour nous aligner sur ton cœur. Nous croyons aussi, Seigneur, que des temps d'assemblée générale nous permettent, Seigneur, de favoriser une saine vie au milieu de nous. Une vie où l'Église s'exprime, une vie où l'Église se développe aussi. Une vie où l'Église est un bon témoignage pour la société et pour ceux qui sont en responsabilité dans notre pays. Nous croyons aussi que la prédication de l'Évangile, elle apporte la vie. Nous croyons qu'elle vient interpeller le cœur, elle vient interpeller nos pensées. Et c'est pourquoi on veut aussi te prier pour Michel. Te prier qu'en même temps qu'il va nous encourager, nous challenger, qu'il soit béni, renouvelé. Et que ce message puisse trouver une répercussion pour les jours qui viennent. À toi toute la gloire. Je voudrais juste finir en bénissant toutes les personnes qui sont connectées en ligne avec nous ce matin. Nous avons des frères et des sœurs qui sont alités, sont malades et nous font toujours le bonjour. On veut les bénir dans le nom du Seigneur et que Dieu fasse son œuvre dans chacune de vos vies. Encore à vous qui nous regardez en ligne ce matin. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bonjour à ceux qui sont en ligne et qui nous regardent. Nos messages tendent habituellement à parler de la vie. On vous parle régulièrement de la dynamique de projet et de la vie de l'Église pour vous encourager. Par exemple, grandir dans la foi, fréquenter les groupes de vie, entretenir les relations fraternelles, la koinonia, briller là où nous sommes, bâtir des mariages solides, être des chrétiens et des citoyens modèles dans notre société, dans notre voisinage, avec les collègues de travail, dans les familles, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la mort. D'abord, pour répondre à certaines questions qui nous sont posées lors de visites ou des entretiens qu'on peut avoir, il y a pas mal de questions qui émergent, mais aussi il y a certaines peurs liées au fait de la mort. Alors on va essayer de lever un petit peu le voile, apporter un éclairage biblique, puisque le réflexe du chrétien, au fond, c'est toujours de se dire, quand il est en face d'une question, quelle qu'elle soit, que dit la Bible ? Que dit Jésus ? Comment ont fait les apôtres ? Et c'est notre boussole, c'est notre point de référence. Alors on va essayer de lever un petit peu le voile, et non seulement lever le voile, mais j'aimerais vous encourager ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble se préparer aussi pour cette échéance qui est inéluctable. À un moment ou à un autre, nous devrons y faire face. D'abord, la première chose, c'est que la mort est une réalité incontournable. Il y a en chacun de nous quelque chose d'intuitif qui nous fait dire il doit y avoir autre chose que le ici et le maintenant. Il y a certainement une vie après la vie. C'est quelque chose d'intuitif. Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11 dira « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Le Dieu éternel a placé en chacun de nous la conscience de l'éternité. » Ce qui laisse à penser qu'il existe autre chose. Il existe autre chose. Ecclésiaste au chapitre 3, verset 2 dira « Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. » La mort fait partie de la vie. Alors parfois c'est un sujet tabou, on n'ose pas trop en parler, mais il faut aussi en parler et il faut l'envisager. Et l'envisager, c'est aussi apprendre à bien vivre et à se préparer à cette échéance. La mort est entourée de mystères. Elle fait peur. Et c'est normal et c'est tout à fait légitime. Pourquoi ? Parce que on a peur de ce que l'on ne connaît pas. L'inconnu fait peur. C'est une expérience que vous et moi, nous n'avons jamais vécue. Donc, ça peut faire peur et on peut le comprendre. Vous avez plusieurs livres qui ont été écrits à partir de témoignages de personnes qui ont connu ce qu'on appelle une EMI, expérience de mort imminente. Ce sont des gens qui, à un moment ou un autre, ont quitté leur corps et qui vous racontent un peu ce qu'ils ont vécu. C'était le cas aussi, notamment, durant la période du Covid, lorsque des personnes ont été hospitalisées durant le Covid, elles se sont retrouvées parfois dans le coma. Et elles se sont vues partir et ont vu toutes sortes de choses, toutes sortes d'expériences. Certains ont traversé un tunnel, ont vu une ouverture. D'autres se sont vus comme enveloppés de lumière et de paix. Alors on ne conteste pas, bien sûr, tout ce vécu. Mais personnellement, je reste assez prudent quant à la fiabilité des expériences qui peuvent être la conséquence d'une activité mentale cérébrale comateuse. Certaines morts sont plus pénibles que d'autres. Ce qui fait que les gens n'ont pas forcément peur de la mort, mais plutôt peur de mourir. C'est-à-dire qu'elles ont peur d'être en souffrance au moment de la mort. Moi, j'aimerais être reconnaissant pour les soins palliatifs et les nombreux bénévoles qui accompagnent les personnes malades dans leurs derniers instants. C'est quelque chose que l'on a développé dans notre pays et je suis profondément reconnaissant pour avoir côtoyé de nombreux bénévoles dans les hôpitaux qui font un travail remarquable. Je suis reconnaissant, qui accompagne dans la dignité jusqu'au bout. On peut mourir de vieillesse, on peut mourir de maladie, on peut mourir par accident, on peut mourir aussi par violence. C'était le cas de Jésus, il est mort sur la croix, c'était violent. C'était le cas aussi d'un certain nombre de chrétiens dans les premiers siècles. Ils ont fini dans les arènes, parfois sur des bûchers, des morts violentes. Je vous rappelle que Porte Ouverte a publié tout récemment l'index mondial de la persécution qui nous rappelle que 365 millions de chrétiens sont persécutés pour leur foi dans 78 pays du monde. Et 4 998 chrétiens ont été tués en 2023, 13 par jour. Et puis, mourir, c'est l'expérience personnelle, en tout cas c'est une expérience qui est la plus personnelle qui soit. Je suis seul face à la mort. Luther disait « Personne ne peut croire à ma place comme personne ne peut mourir à ma place. » Nos personnes âgées, nos seniors, nos aînés, ont souvent été pour moi une source d'encouragement et une grande source d'inspiration. Et j'ai eu le privilège d'accompagner quelques-unes d'entre elles dans les derniers instants de leur vie. Et je vous assure, c'est encourageant et c'est vraiment inspirant. Je pense à Hortense, la maman de Nicole Strebel. On l'a baptisée ici, elle avait, je ne me souviens plus de 80 ans, près de 90 ans. Et elle a vécu encore quelques années. Et j'ai eu l'occasion de l'accompagner. Et dans les derniers instants, avant de partir, elle m'a dit, Michel, merci pour tout. C'est une femme qui vivait profondément dans la reconnaissance. Et je vais le dire tout à l'heure, on termine très souvent comme on a toujours vécu. Et c'est une femme qui était profondément reconnaissante et à la fin de sa vie, elle a dit merci pour tout. Moi, j'aimerais partir comme ça. Je ne sais pas pour vous. Je pense à Henri, que j'ai pu accompagner. Il a passé les 3 derniers mois de sa vie hospitalisé. Et il y a eu tout un travail dans son cœur et dans sa vie, un travail de préparation jusqu'à ce qu'il puisse partir. Comme l'écrit Samuel Gerber dans son livre « Mourir s'apprend », il dit ceci, « il y avait un rayonnement où il rayonnait d'une étrange clarté, pardon. Si je pouvais avoir un tout petit peu de lumière ici, merci. Il rayonnait d'une étrange clarté et un parfum d'un autre monde se dégageait de lui. » J'ai salué Henri la dernière fois après 3 mois d'hospitalisation. Et au bout de ces 3 mois, je l'ai salué. Il a levé le bras vers le ciel et il a dit « à bientôt ». Et j'ai dit ça souvent à des aînés, « à bientôt ». Puis je ne les ai plus revus. Mais c'est vrai, à bientôt. La vie est si courte. Je pense à Erika. Merci pour la lumière. Erika. Erika me disait, je suis dans les mains de Jésus. C'est beau de pouvoir partir comme ça. Je suis dans les mains de Jésus. John Wesley, le théologien anglais du XVIIIe siècle, qui est le fondateur du méthodisme, disait, nos gens meurent bien. Nos gens meurent bien. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances qui entourent le départ des chrétiens, nous avons un Dieu sensible à notre condition humaine et qui nous accompagne jusqu'au bout et qui nous attend de l'autre côté. Psaume 116, verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Quelques versions ont la mort de ceux qu'il aime. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. Alors la mort est parfois une réalité qui prend la forme d'un combat intérieur. Il y a comme un combat intérieur. On n'a pas envie de mourir. Surtout quand on a 24 ans. Je pense à Nathalie, que j'ai accompagnée. Et Nathalie a passé par toutes sortes de phases jusqu'à ce que, intérieurement, à un moment donné, elle a compris que le Seigneur allait la reprendre. Et à ce moment-là, s'est installée dans son cœur une paix. Elle était paisible. Elle était prête pour partir. Pour ses parents, c'était plus compliqué. Et je me revois encore dans leur cuisine. Nous étions tous les 3 autour de la table. Et on partageait, on priait. Et à un moment donné, les parents me disent, « Michel, je crois que nous sommes prêts à laisser partir Nathalie. » Et là, nous avons prié ensemble. On s'est donné la main. Et je vois encore le papa en train de dire, « Seigneur, nous te confions, Nathalie. Prends-la. » Et à ce moment-là, elle était juste dans la chambre à côté. On a pu se rendre dans la chambre. Elle est partie paisiblement. Il y a eu un lâcher-prise. Et à ce moment-là, Nathalie est partie. Alors évidemment, la mort est quelque chose de révoltant et de fondamentalement injuste. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul aussi la qualifie d'ennemi, ce dernier ennemi qui sera vaincu définitivement, dit-il dans 1 Corinthiens 15. On meurt, je l'ai dit tout à l'heure, comme on a toujours vécu. Alors chaque règle a ses exceptions, bien sûr, mais d'une manière générale, on meurt comme on a toujours vécu. Il y a des croyants remarquables qui ont parfois vécu un calvaire et leur mort a été accueillie comme une délivrance. Albert Mauder, qui est un auteur allemand du XXe siècle, écrit « Notre mort est le dénouement d'une longue période de préparation. La résultante de toute notre façon de vivre, elle prend l'empreinte de notre vie et toute notre vie prépare notre mort. » La mort est un passage vers l'éternité, mais elle est aussi un point de non-retour. Hébreux chapitre 9 au verset 27 dira « Il est réservé aux hommes, aux êtres humains, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Nous ne sommes que de passage sur la terre. Donc la mort est une réalité incontournable. Maintenant, que dit la Bible à propos de la mort ? C'est le deuxième point. Alors la Bible est relativement sobre, mais elle apporte un éclairage qui va pouvoir nous aider à surmonter nos peurs à ce sujet. Notamment au travers d'un passage unique dans l'évangile de Luc qui va nous fournir le plus d'informations possibles sur la question. Luc au chapitre 16 et à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement. » Le grec dit ici « torturé » dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de chez nous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Mon père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit, « Alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Terrible histoire. L'histoire de deux hommes, de deux vies et de deux destins différents. L'un est riche, il n'est pas nommé, et l'autre est pauvre, il s'appelle Lazare. Les deux meurent et se retrouvent dans le séjour des morts, mais dans deux lieux distincts. Le riche est dans un lieu de tourment et de souffrance, et Lazare est avec Abraham dans un lieu de consolation qui s'appelle le sein d'Abraham, parce qu'il est aux côtés d'Abraham. Alors, peut-être qu'il faut simplement rajouter ceci, entre parenthèses, ce n'est pas parce que l'homme est riche qu'il se retrouve dans un lieu de tourment, et ce n'est pas parce que Lazare est pauvre qu'il se retrouve dans le lieu de consolation. C'est avant tout une question de cœur, de disposition, de relation à Dieu. Lazare avait la foi, il était en paix avec Dieu, alors que le riche, lui, était loin de Dieu durant sa vie. Et la conversation qu'il a avec Abraham montre l'état de son cœur. Il demande à Abraham d'envoyer quelqu'un vers ses frères pour qu'ils changent de vie, pour qu'ils se repentent de leur mauvaise attitude, de leur comportement à l'égard de Dieu, et qu'ils ne viennent pas justement dans ce lieu de tourment où ils se trouvent. Et c'est un aveu, en fait, de sa part. C'est comme s'il disait, moi je ne me suis pas repenti et c'est la raison pour laquelle je me trouve ici dans ce lieu. Je subis les conséquences de mes choix et de ma vie sans Dieu. Mais il y a aussi dans cette histoire un message de consolation. Pour ceux qui appréhendent la mort et pour ceux d'entre nous et parmi nous qui ont perdu un être cher. Lorsque Lazare meurt, il est porté par les anges auprès d'Abraham. Il est porté, il est accompagné, il est escorté. Vous n'êtes pas seul au moment de partir. Vous n'êtes pas seul. La période de confinement était particulièrement triste parce qu'en raison des restrictions sanitaires, nous n'avons pas pu, en tant que pasteur, accompagner les familles, ni même nous rendre au cimetière ou dans les hôpitaux. On n'a pas pu le faire, justement, en raison des gestes barrières. Et ceux qui nous ont quittés à ce moment-là, vous pouvez être sûr qu'ils ne sont pas partis seuls. Il y avait une escorte, le service d'accueil les a accompagnés. Et ça, c'est une grande consolation. S'ils connaissaient Jésus, ils ont été escortés jusque dans sa présence. Alors, au moment de la mort, que se passe-t-il exactement? Puisque c'est ça le questionnement d'aujourd'hui. Au moment de la mort, le corps va dans la tombe ou éventuellement dans une urne et l'âme quitte le corps. Et l'âme, au fond, c'est l'expression de notre individualité, de notre personnalité. Notre être intérieur, l'âme, c'est la vie, V-I-E. V comme volonté, I comme intelligence et E comme émotion. Ça permet de se rappeler ce que peut être une âme. Et au moment où Jésus raconte l'histoire de Lazare et du riche, nous sommes encore dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Et on disait à ce moment-là que l'âme allait dans le séjour des morts. Alors on va essayer d'avoir le croquis ici, comme ça, ça peut vous permettre, voilà. Le séjour des morts, Sheol en hébreu, puisque la première partie de la Bible est écrite en hébreu, et Hadès en grec, puisque la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, est écrite en grec. Ce n'était qu'un seul lieu, le séjour des morts, avec deux côtés différents. Il y a d'un côté le lieu de tourment, et de l'autre, le sein d'Abraham, et entre les deux, il y avait un gouffre, un abîme, si bien que, comme on l'a lu dans l'histoire, on ne pouvait pas se rendre d'un côté à l'autre. Par contre, on pouvait communiquer. Abraham parle au riche, le riche parle à Abraham. Il y a un moyen de communiquer. Mais il y a un gouffre entre les deux. L'un souffre et l'autre est consolé. Le séjour des morts, c'est le lieu où se rendaient tous ceux qui mouraient avant la crucifixion de Jésus. Et avant que Jésus ne meure sur la croix, si vous étiez croyant, comment est-ce qu'on pouvait être pardonné? Eh bien, par le sacrifice d'un animal. Dieu avait prévu dans sa grâce un moyen d'être pardonné de tous ses péchés pour qu'on puisse aller dans ce séjour-là, séjour des morts. C'est ce qu'il avait fait. Le chef de famille a porté un agneau au temple pour lui, pour les siens. L'agneau était sacrifié et les pécheurs étaient pardonnés et déclarés justes devant Dieu de manière temporaire. Parce qu'il fallait renouveler le sacrifice chaque année. Et lorsque Jésus meurt sur la croix, il est mort une fois pour toutes. Quelle grâce! Quelle grâce! Dans sa grâce, Dieu avait prévu un moyen de pardonner les péchés jusqu'au jour où Jésus, l'agneau de Dieu, soit mort pour les péchés du monde entier. Et ceci, une fois pour doute. Et c'est à partir de cette histoire, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est à partir de cette histoire de Luc 16 qu'est née l'idée du purgatoire dans l'enseignement catholique. Le purgatoire, ça vient de purger, nettoyer. Il serait le lieu où, selon l'enseignement catholique, les âmes de ceux qui meurent en état de grâce passent par une étape de purification avant d'aller au ciel. Un lieu dans lequel ils se purgent de leurs péchés. Alors évidemment, ce n'est pas exactement ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas tout à fait ça. Pour la bonne raison que Jésus a déjà purgé notre peine. Il a payé pour tous nos péchés. Il a dit sur la croix, tout est accompli. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est par son sang versé que nous pouvons être purifiés de tous nos péchés. Puis deuxièmement, c'est pendant que nous sommes en vie que nous avons l'occasion d'accueillir Christ dans notre vie comme sauveur. C'est de cette manière-là, par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans son œuvre sur la croix, que nous pouvons être sauvés et pardonnés de nous tous nos péchés. Après, il sera trop tard. C'est l'enseignement justement de cette histoire que raconte Jésus ici. Et le riche l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle il demande à Abraham d'envoyer quelqu'un pour parler à ses frères. Et Abraham lui dit non. Ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous aide à comprendre notre état et la nécessité de nous repentir, de changer d'attitude à l'égard de Dieu pour être sauvés. Et le riche dira, mais si quelqu'un revient, alors là, ils vont croire. Les miracles peuvent nous encourager, bien sûr, mais les miracles n'ont pas cette capacité à changer notre cœur. Seule la parole de Dieu peut transformer notre cœur. La Bible, la parole de Dieu, n'est pas seulement un livre d'information, mais c'est un livre qui vise la transformation de notre cœur. Les miracles peuvent nous encourager, mais la parole de Dieu peut changer nos vies. Les miracles sont passagers, mais la parole de Dieu est éternelle. Romains 10, verset 17 dira, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors Christ est remonté du séjour des morts. Je reviens un peu en arrière pour vous dire que Christ, au moment de sa mort, Christ est allé dans le séjour des morts. Il faut évoquer ce passage-là aussi. Quand j'étais ado, j'ai suivi le petit et le grand catéchisme luthérien. Et tous ceux qui ont fait cela comme moi savent qu'il y a là toute une éducation biblique fondamentale qui est assez conséquente et qui permet d'asseoir vraiment sa foi. Et dans ce catéchisme, on récitait ce qu'on appelle le symbole des apôtres, le credo. Ça vient du latin qui veut dire « je crois ». Je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et puis, se poursuit en disant, je crois que Jésus a été crucifié, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est descendu, en fait, au séjour des morts. Il faut le signaler, et c'est important. Il est allé au séjour des morts, et qu'a-t-il fait dans le séjour des morts ? Il est allé proclamer la justice à ceux qui sont dans les tourments. Justice a été faite. Christ, notre justice, est devenu justice pour nous devant Dieu. Il a été fait pour nous justice. Il est devenu notre libérateur. Un texte que j'aimerais vous lire ici, c'est 1 Pierre 3, 18, qui dira « Christ aussi a souffert ». et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, c'est-à-dire une mort physique, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois. Jésus proclame sa victoire, sa seigneurie, son autorité. Certaines versions ont « il prêche », mais n'ont pas prêché la bonne nouvelle dans le sens de « evangelizion ». Prêcher dans le Nouveau Testament, c'est « évangéliser », »,« evangelizion », c'est la bonne nouvelle. Ici, c'est plutôt « kerusso », c'est-à-dire « proclamer ». Annoncer sa seigneurie, la victoire, annoncer que désormais, et c'est un message terrible, qu'en raison de leur incrédulité, ceux qui sont dans les tourments sont séparés de Dieu pour l'éternité. Et puis, Christ est remonté du séjour des morts, psaume 30 au verset 4, « Et tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la tombe. » C'était annoncé. Et à la mort de Jésus, la terre a tremblé. La vie est entrée dans le séjour des morts. Le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, a fait sa proclamation de victoire sur la mort, sur le péché, et sur le séjour des morts. Et au troisième jour, il est remonté. Mais il n'est pas remonté seul. Il est remonté en libérant les captifs qui étaient dans le séjour des morts, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Et il a vidé le sein d'Abraham. Éphésiens au chapitre 4 nous donne les détails de cette remontée. Et puis Apocalypse au chapitre 1 au verset 17. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est une grande consolation. Quel encouragement. Christ détient les clés de la mort et du séjour des morts. Matthieu 16, 18. Et c'est l'accomplissement de cette promesse qu'il a faite aux apôtres. « Je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Et c'est ce qu'il est venu proclamer, lui le vivant. De Timothée 1, verset 10, « Christ a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, mon âme n'ira pas dans le séjour des morts, mais j'irai rejoindre le Seigneur Jésus-Christ. Je serai pour toujours avec le Seigneur. C'est ce que dit l'apôtre Paul. J'aimerais plutôt partir, dira-t-il aux Philippiens. J'aimerais bien partir et être avec le Seigneur. Mais pour vous, c'est avantageux que je reste, parce que vous avez encore besoin que je vous accompagne un bout de chemin. Oui, il y a une vie après la mort. J'aimerais inviter l'équipe de louanges à revenir sur l'estrade pendant que je termine et que je vous conduise dans un temps de prière. Il y a une vie après la mort. Et la grande question, c'est de savoir où on veut aller. Cette histoire est riche en enseignements, elle est aussi un avertissement pour chacun d'entre nous. C'est aujourd'hui que nous pouvons nous préparer, c'est pendant que nous sommes encore en vie que nous avons la possibilité de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. La Bible dira « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». La peur de la mort est souvent liée à la culpabilité. Et on se demande « Et si le Seigneur me reprenait dans un moment de défaillance, s'il venait me chercher dans un moment de relâchement spirituel, et si je n'étais pas assez saint, et si je n'étais pas assez bon, mes amis, on ne le sera jamais assez. » Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé de Dieu, mais je suis aimé de Dieu pour que je puisse devenir parfait. Je suis en route et je crois que c'est ça qui compte. Dans toute la sincérité de mon cœur, de me dire, Seigneur, je te fais confiance. Je fais confiance à ton œuvre. Je fais confiance à ce que tu as fait pour moi sur la croix. Je crois à ta parole. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour être aimé de toi, mais je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Jésus pour que je puisse devenir parfait. Puis Jésus nous a précédés dans la mort. Parole vivante, Hébreux 2, au verset 14 dira, « Puisque ses enfants sont des hommes de chair et de sang, il devait partager notre condition humaine. Il l'a fait. Afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a ainsi délivré ceux que la peur de la mort tenait, leur vie durant dans un véritable esclavage. » Avant de prier, j'aimerais vous parler de Henri. C'est un homme qui visiblement n'était pas tout à fait prêt. Henri a passé 3 mois, ses 3 derniers mois de sa vie, dans une chambre d'hôpital. Il a été odieux avec son épouse durant toute sa vie. Et son épouse a supporté l'insupportable. Et pendant les 3 derniers mois de son existence dans cette chambre d'hôpital, vous savez, il y a des choses que vous apprenez quand vous êtes couché. Quand vous êtes debout, ça ne vous frise pas, mais même ça ne vous effleure pas, mais quand vous êtes couché, alors commencez à réfléchir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réfléchi. Il s'est tourné vers Dieu. Et pendant les 3 derniers mois de sa vie, il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et je revois Louise, son épouse, entrer dans la chambre. Elle venait le visiter tous les jours. Et dès qu'elle entrait dans la chambre, il se mettait à pleurer. « Pardonne-moi, disait-il, Louise, pardonne-moi, 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 j'étais tellement méchant avec toi, pardonne-moi. » Et Henri a été orphelin, il a été emmené en orphelinat et il a vécu des choses douloureuses et difficiles, ce qui explique une partie de cette méchanceté, cette dureté de cœur de sa part. Mais le Seigneur l'a ramolli les 3 derniers mois. Il l'a ramolli. Il pleurait tous les jours. Et un jour, j'étais avec Louise et on était là, il pleurait. Et Louise lui disait, « Mais je t'ai pardonné, mon chéri, mais je t'ai pardonné. » Et la dernière fois que je l'ai vu, il était dans la chambre. Il y avait quelque chose de particulier dans sa chambre. Comme il y a toujours une présence particulière dans la chambre d'un chrétien qui est prêt de s'en aller. Et il rayonnait. Il était dans la joie. Et je me suis dit intérieurement, ça y est, maintenant, il est prêt. Il peut partir. Il m'a dit, Michel, à bientôt. Et il est parti comme cela. Et je voudrais que dans ce témoignage et dans ce que nous sommes en train de vivre ensemble ce matin, nous puissions dire au Seigneur, j'ai confiance en toi. Je crois que tu vas me préparer. Je crois, Seigneur, que tu m'accompagnes et que tu seras fidèle jusqu'au bout. Voulez-vous qu'on prie ensemble avant d'entendre un dernier chant? Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions parce que tu prends soin de tes enfants. Nous te remercions parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous te remercions parce que tu as tout mis en œuvre pour qu'on puisse te connaître et pour qu'on puisse être en paix avec toi, nourrir une relation personnelle, être sauvé, être pardonné de nos péchés. Mais ce matin, je m'adresse à quelqu'un peut-être qui n'a pas encore la paix, quelqu'un qui n'est pas en relation avec Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Dans la simplicité de ton cœur, dans une simple prière, tu peux te tourner vers Dieu. Tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, accueille-moi. J'ai besoin de toi. Je réalise que je suis sur une fausse route. Je réalise que je suis à côté. Et j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux pas, par moi-même, me sauver. Ce n'est pas une église qui peut sauver. Ce n'est pas une religion qui peut sauver. c'est le Sauveur qui sauve. Alors tournons-nous vers lui ce matin. Disons-lui, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, accueille-moi. Je crois que tu es le Sauveur. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je crois que tu as payé. Lorsque tu as dit « Tout est accompli », tu as tout accompli pour moi. Alors dans la simplicité de mon cœur, je te fais confiance. Et je veux te confier ma vie jusqu'à la fin. Et je veux te remercier parce que tout ce reste de vie, tu le consacres à me préparer pour cette grande et ultime rencontre avec toi, ce départ. Seigneur, merci de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour envers chacun de nous. Et merci d'avoir tout mis en œuvre pour te rencontrer au nom de Jésus. Amen.
Merci pour l'espérance que tu nous offres, malgré la mort, malgré la souffrance qui va avec, malgré la séparation avec des gens qu'on connaît. Seigneur, merci pour l'espérance qu'on a de pouvoir passer l'éternité avec toi. Merci parce que tu es la résurrection et la vie. Et je veux te remercier ce matin pour les personnes peut-être qui ont fait ce choix de se dire « Mais peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans ma vie, dans la vie éternelle, dans la vie après la mort. » Et merci parce que ce choix est accessible encore aujourd'hui. et encore demain, et après-demain. Et à chaque jour, tu nous tends cette main, tu nous tends cette bonne nouvelle de pouvoir faire ce choix de te faire Seigneur et Sauveur de nos vies, et d'avoir comme héritage la vie éternelle et ta présence avec nous. Merci mon Dieu. Amen. Quel message! Quel message! Merci Michel pour ce message. C'est des sujets tout le temps qui peuvent être tabous aussi, comme l'a rappelé Michel. Et j'aime bien parce qu'il a rappelé ce que Paul disait par rapport à la mort, son envie de rejoindre Jésus au ciel et son envie aussi de rester sur terre parce que sa mission n'était pas encore finie. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour chacun d'entre nous, c'est que si on est encore sur ces terres, c'est que Dieu n'en a pas encore fini avec nous. Dieu va encore se servir de nous, Dieu va encore faire de nous des personnes qui brillent dans la société, dans la cité. Et on va justement passer un temps de focus, encore une fois, où on va mettre en avant des gens qui brillent dans la société, dans la cité. Donc je vais nous inviter à bien vouloir venir et juste vous rappeler un petit peu c'est quoi le but de nos focus. Donc les focus, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on en fait à différents dimanches dans le mois. On veut mettre en lumière la vie d'église. La vie d'église, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir juste si on vient le dimanche matin. Donc on veut mettre en lumière qu'est-ce qui se vit, à l'EPI. Et notamment, ce focus, on veut mettre en lumière des disciples de Jésus, des membres de l'EPI qui brillent dans la cité, et notamment à travers le livret. À travers le livret qui est une école chrétienne, et on va en savoir un peu plus. Léa et Marie vont nous en parler. Donc, bienvenue à vous tous, premièrement. Merci d'être là. Donc, on va juste d'abord se présenter pour ceux, je pense, vous le connaissez pour la plupart, mais juste peut-être citer votre prénom et puis voilà.
Moi, c'est Léa.
Moi, c'est Marie.
Moi, c'est Mickaël.
Et moi, c'est Vanessa. Voilà, je traduis pour tout le monde. Yes, ben bienvenue à tous. Premièrement, donc ces quatre personnes ont un lien avec le livret, puis ils vont nous expliquer un petit peu comment ils font pour briller dans la cité, à travers le livret. Juste un petit changement de micro, magnifique. Merci à la technique qui sont toujours réactifs. C'est toujours un privilège de travailler avec vous, c'est trop bien. Premièrement, le livret, son histoire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, Léa et Marie?
Oui, alors c'est moi qui ai la charge de commencer. Alors une petite partie sur l'histoire de le livret. Le projet était en réflexion à partir de 1994. Cette réflexion était quant à l'ouverture d'une école chrétienne sur Strasbourg. La réflexion a été faite et menée par quelques membres de diverses communautés de Strasbourg. Après de mûres réflexions, le projet a enfin vu le jour en 1999 et l'EPI a généreusement prêté ses locaux. Et c'est en septembre 2003 que l'ouverture de l'école, que l'école en fait a eu ses propres locaux et donc maintenant elle est domiciliée à Schiltigheim et encore aujourd'hui.
Si on devait résumer maintenant la mission de l'école, ça reviendrait à dire en fait que l'enfant, il n'est pas un vase qui a seulement besoin d'être rempli de connaissances pour pouvoir bien vivre en société. Il a besoin de beaucoup d'autres choses, comme par exemple une compréhension de soi, un amour inconditionnel, une raison de vivre, une destinée à découvrir et une aptitude à coopérer. Et ces aspects, ils guident la formation intellectuelle, identitaire et sociale. Et l'école, il faut savoir qu'elle accueille des enfants chrétiens, mais pas seulement, on a des enfants de toute confession et aussi des enfants non chrétiens.
Je trouve ça super d'entendre ça, parce que ça montre qu'on peut... vous brillez vraiment dans la cité et pas juste dans l'église, donc on veut, et c'est pour ça qu'on fait ce focus-là aussi. Et depuis quand êtes-vous impliqués, justement, à le livret, Léa et Marie?
Alors, pour ma part, je suis arrivée fraîchement du sud de la France. Pourquoi? Je ne sais pas. je suis arrivée en 2013 à peu près. J'avais avant cela effectué un stage ici en novembre 2012. Et actuellement, du coup, je travaille auprès des petits de 2 à 6 ans avec la pédagogie Montessori. J'ai commencé cette pédagogie avec Sophia Riff, que vous devez connaître, et actuellement je suis aux côtés de Annie Zanian. Et au fil des années, je me suis spécialisée plus sur les enfants à besoins spécifiques. Voilà.
Alors moi, j'ai déménagé à Strasbourg en 2020 et je suis arrivée peu de temps après, en 2021, à l'Olivret. D'abord, j'ai commencé par enseigner des matières d'éveil les après-midi. Puis en septembre 2022, j'ai été enseignante principale en CPCE1. Et cette année, je suis passée en classe supérieure avec eux en CE1, CE2 du coup.
Ah, c'est bien, ça évolue. Puis des choses qu'on voit différemment, donc c'est super. Mickaël, Vanessa, du coup, en tant que parent d'élève, depuis combien de temps justement êtes-vous parent d'élève? Et puis, c'est ça, donner ces informations.
Pour ma part, pour Léa et Anaïs, en fait, elles ont suivi leur scolarité depuis le début, en fait, depuis la maternelle. Et puis, actuellement, Léa est en CM1 et Anaïs en CE20.
Alors, nous aussi, nos deux filles, elles sont à l'Olivret, donc Gabrielle et Siloé. Donc, Gabrielle est rentrée en septembre 2019 à l'école. Et Siloé, elle est rentrée en janvier, donc elle a 2 ans, c'est la Benjamin de l'école. Voilà, et en fait, nous, dans la famille, c'est une histoire de famille, l'Olivret, parce que mes frères et sœurs étaient déjà à l'Olivret quand l'école a été fondée. Donc, Cécilia, Rachel et Emmanuel, donc c'est la deuxième génération dans notre famille qui est à l'Olivret.
Okay, merci pour les infos. Léa, Marie, justement, qu'est-ce que vous essayez d'apporter aux enfants? Puis quel impact vous avez sur eux, justement? C'est quoi? Peut-être des témoignages ou,
ouais. Alors, à l'Olivret, si on devait mettre en avant 2 valeurs principales et qu'on essaye d'apporter le plus possible dans notre enseignement, c'est la bienveillance et l'amour. On pense qu'il est primordial, en fait, que les enfants ils se sentent valorisés, aimés non seulement par leurs enseignants, mais aussi savoir qu'ils sont aimés et choisis de Dieu. Et on encourage vivement l'apprentissage de la coexistence dans la bienveillance et le respect mutuel des différences de chacun. Et concernant l'impact, du coup, sur les enfants, l'année dernière, on a pu avoir la joie, en fait, de voir 2 enfants de familles non chrétiennes qui ont pu donner leur vie à Jésus. Et cette année, il y en a une d'elles, d'ailleurs, qui s'est fait baptiser. Même moi, dans ma classe, j'ai une petite fille d'une famille musulmane qui prie Jésus tous les jours. Et ce qui est incroyable, c'est de voir, en fait, que les parents, ils sont témoins et heureux et, du changement dans la vie de leurs enfants et qui les laissent libres de faire leur propre choix.
Waouh, super.
Pour ma part, je dirais qu'on a le privilège déjà de travailler avec des petits effectifs de moins de 20 élèves. Et ça favorise grandement les enseignements personnalisés, déjà répondant un peu aux besoins de chacun, individuellement. Et on attache une grande importance à accompagner l'enfant dans son développement global, donc qu'il soit physique, spirituel, intellectuel. Et ainsi, chaque enfant déjà est valorisé dans son unicité. Une petite anecdote donnée par les proviseurs des collèges de Strasbourg. Suite au départ des enfants en CM2, souvent les proviseurs nous disent exprimer leur étonnement face à une identité qui est vraiment enracinée chez ces enfants-là. Donc c'est bon signe.
Super, vos témoignages. Mickaël et Vanessa, justement, vous en tant que parents, vous êtes les premiers bénéficiaires de qu'est-ce qu'on déverse dans vos enfants. Et bon, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais l'école est un miroir de ce qu'on après récupère à la maison le soir en fonction de la journée qu'ils ont passée. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur l'impact que le livret peut avoir sur vos enfants, puis qu'est-ce que ça apporte à la maison?
Je dirais 2 choses. La première, pour moi, ce qui est fondamental, c'était vraiment le prolongement des valeurs chrétiennes qu'on pouvait enseigner au sein de notre famille et qu'on enseigne aussi au sein de l'Église et qu'on retrouve du coup au sein de cette école. Et moi, je trouve que mes enfants ont vraiment découvert concrètement qui est Jésus au travers de l'amour et de la bienveillance, comme on l'a dit, de leurs enseignants et de leurs enseignantes. Et pour moi, ce sont vraiment les meilleurs modèles qui peuvent montrer à nos enfants qui est Jésus concrètement pour eux. Par leur attitude, par les temps de biblique qu'ils ont aussi le matin, mais aussi par l'enseignement, comme ça a été dit, en petit effectif. Moi, j'ai vraiment vu mes enfants qui ont pu, au fur et à mesure des années, s'épanouir et vraiment grandir autant intellectuellement que spirituellement aussi au sein de cette école. Et je sais que moi, dans cette école, ils seront vraiment équipés pour venir des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, quoi. Et si je devais concrètement donner deux témoignages de mes enfants, alors je vais être obligé de donner les 2 parce que sinon après il y aura des crises de jalousie à la maison. Je dirais que déjà pour Anaïs, elle a eu des débuts très compliqués avec un détachement de la famille qui était vraiment très 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 compliqué. et voilà, avec le temps passé et la bienveillance des enseignants, mon enfant s'est ouvert petit à petit. Et j'ai vu vraiment une enfant qui s'est transformée au fur et à mesure du temps, quoi. Et la deuxième, bah, c'est pour Léa. Une petite anecdote marrante, c'est que quand je voyais tous les parents qui revenaient avec des dessins, je voyais ma fille qui n'avait pas de dessin. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis le seul parent qui l'enfant ne ramène pas de dessin? Et en fait, en discutant avec l'équipe enseignante, elles m'ont fait comprendre qu'en fait, dans la pédagogie qui est exercée, on laisse le libre choix sur certaines activités aux enfants de pouvoir développer les dons et les talents selon l'envie qu'ils avaient. Et je peux dire que maintenant, en fait, ma fille fait de véritables chefs-d'œuvre. Simplement, je pense clairement parce qu'on ne l'a pas forcée à devoir faire quelque chose, parce qu'il fallait faire quelque chose, mais parce que vraiment, on a attendu, on lui a pris le temps, dans la bienveillance et l'amour, de pouvoir respecter son rythme de vie au sein de le livret.
Bah, t'as dit beaucoup, beaucoup de choses. T'as presque tout dit. Si. Bah, moi, je vais vous donner des anecdotes parce que pour le coup, je partage vraiment ce que Mika dit. On apprend beaucoup en fait au contact de nos enfants et moi je vois que Gabriel c'est un disciple de Jésus et ça je sais que c'est grâce à ce que on sème dans sa vie à l'école. Et je me souviens un jour on était dans la voiture et Gabriel elle nous disait il y a cette fille qui m'embête, ça fait plusieurs fois qu'elle l'embêtait. Puis voilà, en tant que parent, moi je lui dis tu sais quoi, t'arrêtes de parler à cette fille et juste voilà, tu l'oublies, tu la mets de côté. Et là, elle me dit, mais non, maman, Jésus, il pardonne et Jésus, il nous donne encore et encore une chance. Et alors là, je lui dis, non, mais ouais, t'as raison, en fait. T'as raison, continue, m'écoute pas, écoute Jésus. Donc, on apprend beaucoup et on voit comment, effectivement, cette bienveillance, ils se l'approprient et comment, au quotidien, en fait, ils arrivent à vivre ça et de se dire, on pardonne et on continue et on avance. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et pour Siloé, qui est à l'école depuis maintenant un peu plus d'un mois, en fait, on s'est rendu compte que tout l'amour que ses maîtresses lui donnent, c'est quelque chose qui la marque énormément. Parce que maintenant, son obsession, c'est de jouer à Madame Zanian et Madame Goué, donc ses deux maîtresses. Donc on passe notre temps à jouer et on voit comment elle fait des câlins, etc. Et je me disais, waouh, c'est fou comment, en quelques semaines déjà, elle a compris qu'elle était aimée par ses maîtresses et qu'elle était acceptée telle qu'elle est. Donc, voilà, moi je suis extrêmement heureuse que mes filles puissent grandir autant au niveau de l'intelligence, de l'éducation, mais également en tant que petit Christ.
Yes, merci pour les retours. Un peu plus large, au-delà de l'impact des enfants qui est vraiment une priorité, est-ce que vous avez un impact sur la société autour de vous? Notamment, là, vous êtes basé à Schiltigheim, donc comment vous pouvez rayonner autour de vous?
Alors, je vais commencer. Concernant l'impact de manière plus large dans la société, il y a quelques années, avec Madame Riff, on a pu aller spontanément, comme ça, distribuer des cartes de vœux de Noël. Alors, on est passé par la boulangerie, par la mairie, et puis on a atterri au commissariat de police.
Et... pas pour un vol. Hein.
Non. Et la police était vraiment heureuse de cette visite spontanée et elle a exprimé le fait que eux ils recevaient que du public insatisfait, du public dans la détresse et cette touche de joie en fait leur faisait beaucoup de bien à ce moment-là. Et suite à ça, on a visité tout le commissariat de police. Alors imaginez la tête des garçons quand ils sont rentrés dans cette voiture de police. C'était vraiment extra pour eux. C'était la plus belle journée de leur vie. Et suite à ça, l'information, elle a été relayée plus haut, au niveau de la direction du Bas-Rhin. Et spontanément, eux aussi, en nous demandant, ils nous ont demandé s'ils voulaient bien goûter avec nous dans nos classes. Le chef de la direction de la police est venu, et puis le chef de la police de Schiltigheim est venu aussi goûter avec nous. Et on a eu vraiment une occasion extra de pouvoir les bénir et prier pour eux, avec leur accord. Et c'était juste merveilleux, en fait.
Wow, super, c'est vraiment génial. On peut applaudir tout l'impact, la manière dont Chypre brille dans la société. Il y a un stand qui se trouve justement dans le hall. Il y a deux tables, vous verrez, avec tout un attirail. Vraiment, c'est bien fait avec des membres de la direction de l'Olivret. Si vous avez des questions, si vous voulez des informations concernant l'école, sa vision aussi, ou si vous voulez même inscrire vos enfants, en tout cas, ils sont là pour répondre à vos questions et pour être là pour vraiment parler avec vous. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et on va se lever tous ensemble, on va prier pour ceux qui sont là, on va prier pour ceux qui représentent l'Olivret, mais aussi prier plus largement à tous ceux qui brillent dans la cité, c'est-à-dire vous et moi. En fait, on est tous appelés à briller dans la cité d'une manière différente. Le livret brille de cette manière-là, mais on est tous appelés à être la lumière du monde, n'est-ce pas? Yes, on va prier pour eux et après je prierai pour chacun d'entre nous. Seigneur, on veut te remercier pour cette école, on veut te remercier pour Léa, Marie, Vanessa, Mickaël et tous ceux qui représentent cette école, Seigneur, qui brille dans la cité, qui brille dans la société, qui sont là aussi pour impacter ces enfants et tu aimes les enfants, Seigneur. Merci pour tout l'enseignement qui est donné. Merci pour la transformation qu'on peut voir jour après jour, Seigneur. Et on te prie vraiment de les bénir. On te prie, Seigneur, d'ouvrir les portes qu'il faut pour eux. On te prie, Seigneur, de les bénir pour ta faveur sur eux, Seigneur. On te prie de renouveler chacun dans cette mission que tu leur as donnée, Seigneur. Et plus large maintenant, je te prie pour chaque personne ici présente, chaque personne qui nous regarde en ligne, Seigneur. On est tous appelés à briller. On est tous appelés, Seigneur, à être la lumière du monde. Je te prie de nous aider là où tu nous as placés. Dans notre cité, dans notre voisinage, dans notre travail, dans notre école, dans notre famille, Seigneur, que tu puisses nous aider à briller, que tu puisses nous aider à porter l'amour que tu nous as donné, à porter l'amour dont tu nous as aimé, Seigneur, à porter le pardon que tu nous as offert, Seigneur, à porter le caractère, Seigneur, que toi, tu as, qu'on puisse être tes ambassadeurs, qu'on puisse être tes représentants sur cette terre, Seigneur, et apporter cette bonne nouvelle de Jésus, cette bonne nouvelle de l'Évangile, que même s'il y a la mort, comme Michel en a parlé, Seigneur, il y a une espérance de la vie éternelle avec toi qui commence sur cette terre. Au nom de Jésus, amen. Merci pour tout. Merci encore à vous tous.
Merci beaucoup. Deux infos importantes. La première, vous l'avez entendu, le stand de l'Olivret, vous aurez accès à tout ce qu'il faut en termes d'informations. N'hésitez pas à rencontrer les acteurs de terrain. Si le message d'une manière ou d'une autre sur la mort vous a interpellé, ce qu'on a entendu sur les enfants, la prière, il y a quelque chose avec Dieu qui s'est passé pour vous. Nous avons un espace d'écoute et de prière sur votre droite qui est sur ma gauche. Cette allée sera dédiée. Il y aura des personnes qui vont vous attendre pour pouvoir avoir un temps vraiment d'écoute par rapport à ce que vous pouvez vivre. Peut-être que vous allez vivre cette semaine. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous rendre à cet espace d'écoute et de prière. Et je demanderai évidemment, comme d'habitude, à vous qui êtes sur cette rangée de bien vouloir libérer cet espace de manière à ce qu'il y ait vraiment un temps bien intime d'écoute et de prière. Une bonne semaine à chacune et à chacun. Que Dieu vous bénisse et à vous aussi en ligne.